présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Des avions ?
L'enfant lui dit.
Il faut être discret, ne pas effaroucher les gens. Ne faisons rien, attendons de voir. Peut-être qu'ils vont disparaître et vivre dans une forêt profonde.
Rican lui dit. À Paris ?
Non, mais ils peuvent s'en aller plus loin. Et puis 20, ce n'est pas beaucoup. Et si les gens les voient, on va les prendre pour des fous. Ne faisons rien, après nous verrons.
Rican lui dit, ils risquent c'est de faire des ravages. Ils sont malgré tout encore sauvages. Et, enfin, ce qui m'intéresse, c'est comment ils vont se comporter avec les hommes, comme des oiseaux ou comme leurs semblables.
Paris et ses environs
pense les plaies qu'a fait le violent orage de la nuit dernière. Et petit à petit, la vie reprend, pour la plupart, une vie de misère. Un petit garçon de 8 ans, Adrien, blondinet, visage encore poupon, yeux bleus et lèvres gourmandes, est réveillé par sa maman, une belle jeune femme dans les 30 ans, mince, blonde, habillée d'une robe beige. Elle lui a donné des baisers pour qu'il se réveille.
Il est l'heure, mon chéri, il est temps de te lever pour aller à l'école.
Adrien se tend au cou de sa mère. Elle reçoit ce petit corps tout nu, tout chaud, qui sent la douceur.
« Maman, j'aimerais rester avec toi. »
Elle lui sourit, lui caresse le dos et lui dit
« Mais non, mon chéri, tu ne peux pas. Il faut que tu ailles à l'école pour apprendre beaucoup de choses. Comme cela, lorsque tu seras grand, tu auras une bonne place et je serai très fier de toi, mon petit amour. »
Elle le berce un moment et lui dit
« Allez, ton petit déjeuner est prêt. »
Il se retire. L'enfant soupire. Elle se lève et lui dit
« Allez, lève-toi. Je t'attends à la cuisine.
Tu veux pas me laver ?
Non, tu es trop grand maintenant. Allez, ne fais pas le bébé. »
Et elle sort de la chambre.
L'enfant se lève.
Mais ses pantoufles pour aller dans la salle de bain. Sorti de la chambre, il va dans la salle de bain. Il entre dans la baignoire et prend une douche vite fait. S'essuie. Et sort de la salle de bain pour aller à la chambre. Là, dans la chambre, il s'habille pour aller à l'école. Chemise blanche. Pantalon marine, souliers noirs, puis il sort de la chambre pour aller à la cuisine, retrouver sa mère. À la cuisine, il s'assoit à table pour prendre son petit déjeuner. Elle lui sert son cacao. Des tartines de pain grillé et du miel. Adrien est fils unique et vit seul avec sa mère. Le père est mort. Il était en voyage d'affaires. Et l'avion qu'il ramenait a pris feu en vol. Sa mère lui demande « qu'est-ce que tu as comme leçon ce matin ? Maths, grammaire et poésie. Elle lui dit, ça passera très vite, tu verras. Après, je viendrai te chercher. À midi, je vais te préparer des pâtes et du poisson. Ça te va ? Oui. Une fois qu'il est fini de manger, elle lui dit, allez, il va falloir partir maintenant.
Ils sortent de la cuisine. Prend dans le couloir sa veste et son cartable, puis vont vers la sortie. Ils s'embrassent. Sois courageux. Il quitte l'appartement, elle ferme la porte.
Dehors, le ciel est redevenu bleu. Il fait doux. Adrien habite dans le quartier de Notre-Dame, la Presqu'île, un vieil immeuble bourgeois. Son école n'est pas très loin de chez lui et il peut y aller à pied. D'habitude, il rencontre ses camarades d'école, mais aujourd'hui, personne. Adrien aime aller à l'école, regarder les magasins, vagabonder son imagination comme tous les enfants. Pour aller à l'école, il aime passer par une petite rue un peu étroite qui fait passage. Elle aboutit à un jardin public et le passage fait un peu campagne. Il est plus souvent solitaire. Il n'y a personne qui y va. Les maisons ne sont pas très hautes et l'on voit le ciel, les arbres. Adrien aime le ciel et les arbres. Il est dans le petit passage de cette petite rue un peu étroite. Il marche en se racontant une de ses histoires de voleurs et de policiers. Tout à coup, il voit tomber face à lui un homme tout blanc, avec de belles ailes sur le dos. Il est nu. Il est surpris, mais n'a pas peur. Il est plutôt ébloui. L'homme a des yeux qui le regardent. L'enfant est comme ébloui par ses yeux et en même temps ébloui par cet homme étrange qui semble sortir de son imagination. Il ne crie pas, il n'a pas peur parce que cette apparition fait partie de son univers. Il s'avance vers l'enfant qui ne peut plus bouger. Et d'un coup, il enveloppe de ses mains, ses ailes, le couvre. L'enfant est comme prisonnier. L'homme ailé ouvre la bouche et mord le nez et le cou. Hurle. Et s'est évanoui. Puis, il lui mord les bras et le ventre. Le corps de l'homme, oiseau, est plein de sang. Il prend l'enfant dans ses bras, déchiqueté, et s'envole avec l'enfant. Il vole au-dessus de Paris. Il atterrit sur le toit de l'opéra. Là, il dépose le corps et continue à le manger. Place de la Bastille, les voitures attendent à un carrefour. Tout à coup, ils voient venir du ciel deux hommes oiseaux blancs et nus. Ils viennent de se poser sur le toit des voitures. Les gens qui les voient sont comme pétrifiés. Ils ont freiné, trop freiné, et toutes les voitures se sont carambolées. Les chimères vont d'une voiture à une autre. Les gens ont peur. Les chimères essayent d'ouvrir les portières des voitures. Lorsqu'ils arrivent, ils veulent sortir les gens des voitures. Il y a plus d'eux, mais une dizaine de chimères qui vont d'une voiture à une autre. Les gens les entendent marcher sur les toits des voitures. Certains ont réussi à coups de poing à crever le toit des voitures et se sont introduits dans la voiture pour mordre les passagers. C'est la panique, l'horreur. Tout le monde se demande ce que c'est, ce qui se passe. On entend des cris, des hurlements. On entend des cris, oui, des hurlements. À l'intérieur des voitures, où ils ont réussi à entrer, le sang qui jaillit sur les vitres. Et après, les chimères sortent de voitures rouges de sang et s'envolent dans les airs. Bien entendu, les pompiers, la police arrivent en retard. Thank you. constate les dégâts. Une dizaine de morts atroces, déchiquetés. Les voitures pleines de sang. La porte. On fait un procès verbal de tout ça. Le ministre de l'Intérieur demande au préfet de faire quelque chose. Le préfet décide de faire des recherches à l'aide d'hélicoptères puisqu'ils volent. On fait partir une dizaine d'hélicoptères pour aller pourchasser ces choses étranges et les... Les hélicoptères sont partis et sillonnent la ville de Paris. Les chimères, lorsqu'elles voient les hélicoptères, se cachent sous les toits, derrière les cheminées ou entrent dans les greniers. Les hélicoptères surveillent jour et nuit, la nuit avec de gros projecteurs. Pilote d'hélicoptère voit avec ses phares une chimère sur un toit. Il fonce sur elle. Le moiseau, avant d'être pris, fonce, s'envole. L'hélicoptère le poursuit. Le moiseau vole, vole, vole. La bête a poussé un cri. Tout à coup, d'autres chimères arrivent, foncent, au lieu de se sauver, sur l'hélicoptère. Une dizaine de chimères. Une se met sur la glace de l'hélicoptère, une autre sur le châssis de l'hélicoptère pour faire arrêter l'hélice, un autre sur la queue. L'hélicoptère tangue, le chauffeur se sent perdu, il ne voit plus rien. Tout est blanc, un être blanc qui est plaqué sur sa vitre. Tout à coup, une chimère arrive à ouvrir la portière de l'hélicoptère et avec la main, il tire le chauffeur à l'extérieur et le jette à terre. Ah ! L'hélicoptère tangue et plonge.
Le chimère le lâche. L'hélicoptère est tombé place de l'Étoile. Des voitures qui ont explosé, ont mis le feu à des immeubles. Sauf le groupe Jeune Tout est resté intact. Police et pompiers sont arrivés sur le lieu de carnage. À la police, c'est la panique. Le préfet de police fait tout arrêter. Le ministre dit : et les avions ? Ce sera encore pire. Le ministre de l'Intérieur est convoqué chez le Premier ministre. C'est un grand maigre, à cheveux frisés et lunettes. Cheveux grisonnants.
Entrez. Venez vous asseoir.
Le Premier ministre est petit, gros et chauve. Ils sont dans le bureau du Premier ministre.
Alors, que se passe-t-il ?
Le ministre de l'Intérieur lui dit : la catastrophe. Des choses bizarres qui volent, attaquent les hélicoptères, tombent sur les voitures, font du cannibalisme. Le Premier ministre lui demande : qu'est-ce que ça peut être ?
Je sais pas. Peut-être des choses venues d'ailleurs. Étrange cette histoire. Ça ressemble à quoi ?
À des espèces d'hommes oiseaux. C'est tout blanc. Le Premier ministre lui dit : que faut-il faire ?
En tout cas, la police ne peut rien faire. Peut-être l'armée, et encore.
Le Premier ministre lui dit : je vais en parler au président. Merci.
Thank you. Et le lendemain, il est dans le bureau du président de la République. Et il lui explique la chose au président. Le président lui dit, « Je crois savoir d'où ça vient. J'ai ma petite idée. Laissez-moi m'en occuper. »
Bien, monsieur le président.
Des chimères entrent par les fenêtres des chambres des femmes. Et les violent. Au début, elles sont paniquées, puis elles aiment ça. Elles sont comme hypnotisées. Ces femmes, violées plus ou moins, ont été mises enceintes et vont accoucher de chimères comme eux. Mais personne ne le sait pour le moment. Les femmes, après avoir fait l'amour avec un, ne peuvent plus faire l'amour avec un homme. Car faire l'amour avec une chimère, cela fait tellement partie de leur fantasme, c'est tellement fort. Qu'un simple homme peut leur paraître fade. La nuit, ces femmes qui ont été prises par ces hommes oiseaux laissent leurs fenêtres ouvertes de leur chambre pour laisser entrer la chimère. Pendant ce temps, le président de la République a convoqué Gallien à son bureau, à l'Élysée.
veille. Venez vous asseoir, monsieur Diacre.
Le président lui dit, il faut absolument arrêter ces expériences qui mettent en danger la population. Toutes ces histoires de moiseaux, je sais très bien d'où cela vient. Ça vient de chez vous.
Kayen lui dit, je comprends, mais l'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Et puis cette expérience de moiseau est malgré tout une réussite. Cette espèce d'homme va nous permettre de les employer pour certaines tâches dangereuses pour l'homme, pour des travaux de hauteur, de secours, par exemple des avions en péril, etc. C'est pour cela que je vous demande, c'est d'être clément et de nous faire confiance. Le président lui demande.
Et que faire pour le moment de ces bêtes lâchées comme ça? Comment faut-il faire pour les rattraper? Et qui font des ravages.
Kayen lui dit, nous trouvons bien quelque chose pour les arrêter. Ce ne sont que des hommes avec des ailes.
Peut-être, mais qui mangent des hommes.
Parce qu'ils n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent.
Bien, je vous fais confiance, mais c'est la dernière fois. Vous ne devez pas être au-dessus de la loi.
Kayen lui dit, non, et personne ne l'est.
Le président lui dit, eh bien, ne vous occupez plus de choses contre nature, plus d'expériences insensées. Et vos hommes oiseaux, nous n'en voulons pas.
Bien, monsieur le président,
vous pouvez disposer.
Galien, une fois dans son bureau, convoque Damphore.
Allô ? J'aimerais, c'est que monsieur Damphore puisse venir me voir à mon bureau de toute urgence. Merci. Oui, oui, c'est très très urgent.
Entrez. C'est Damphore. Monsieur Damphore, venez vous asseoir.
Monsieur le Président.
Vous avez mis du temps pour venir.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'oiseaux qui volent, non d'hommes qui volent?
Damphore lui dit. C'est des chimères.
Kayen agacé lui dit, chimère ou pas, il n'en vaut plus. Le président m'a convoqué et m'a dit d'arrêter toutes ces choses.
Damphore lui dit, je sais, vous avez été très bien. Vous avez bien su défendre le groupe comme un vrai président.
Qui vous l'a dit?
Le président lui-même, il souhaitait que vous le fassiez. Il m'a dit, il est très bien.
Kayen lui dit, comment ça? Il m'a joué la comédie?
Damphore lui dit, il ne pouvait pas faire autrement. Il jouait à être le président et vous le représentant du groupe Jeune Tout. Mais de l'autre côté, vous pensez le monde entier se demande ce qui va se passer en France. Quelle publicité!
Kayen lui dit, alors qu'est-ce qu'on fait avec ces drôles de petites bêtes?
Ces sales petites bêtes? Kayen lui répond, nous trouvons bien quelque chose pour les neutraliser.
Et en attendant, qu'est-ce que vous préparez?
Damphore lui dit, l'avenir, le monde, à notre manière.
Kayen lui dit, eh bien ce monde sera certainement assez dangereux, je crois.
Damphore lui dit, de toute façon, nous vivons sur un volcan. Thank you.
Le monde entier regarde la France avec peur et envie. Toutes les expériences, l'ADN, la biotechnique, la chimie, les ordinateurs ultra perfectionnés. La France devient le premier groupe mondial. La bourse de Paris explose d'offres, le franc grimpe, le monde entier achète nos produits et regarde ce que se passe chez nous. Nous sommes l'avenir. En plus, ce continent qui se construit, où tout le monde veut y aller. Malgré que la bourse va bien, le franc aussi, les industriels s'enrichissent. Et plus tout ça va, moins ça va pour les pauvres. Il y a de plus en plus de pauvres qui sont de plus en plus pauvres. Plus la France et les industriels s'enrichissent, plus il y a de pauvres. Et les pauvres à qui l'on donne de moins en moins de choses, d'aide. Les aides chômage diminuent. La sécurité sociale n'est qu'une peau de chagrin. Il y a de plus en plus de SDF, comme on dit, et la richesse du pays est partagée par un groupe de plus en plus restreint. Le premier groupe mondial est bien entendu celui qui est à la pointe du progrès, c'est-à-dire le groupe Genetou. L'homme le plus riche du monde, c'est Galien. Il ne s'en rend même pas compte, car il vit simplement. Il ne se rend pas compte de ce qu'il représente, de ce que représente ce groupe si puissant, qui détient toutes les nouvelles découvertes du globe, qui a l'ADN de Dieu, le cerveau de Félicien Portuor. Galien vit dans un monde où toutes les informations lui sont filtrées pour éviter les crises, la peur de son pouvoir. La signature de Galien représente la signature de Dieu presque. Aucun homme politique n'a une signature aussi importante et puissante. Ce n'est pas une simple bombe atomique qui peut faire déclencher. Mais il peut, d'une simple signature, changer le monde, la vie, supprimer ou mettre de nouvelles espèces, faire revivre les morts, prendre leur âme. Il fait, avec les hommes, des ordinateurs, ADN. Il est tout et peut tout. Comme il y a plus en plus de demandes d'ADN,
Il faut des organes et des cerveaux. Cerveau pour avoir de la mémoire et faire marcher le corps. Les organes pour remplacer les organes malades ou morts, qui sont greffés sans complication grâce à l'ADN. Bien sûr, l'on peut recréer l'organe avec un bout de chair du receveur et le mettre sur un moule qui représente la forme de l'organe. Avec l'ADN et des bactéries, la peau recouvre le moule et refait l'organe à l'identique. Une fois fait, le PVC qui a servi de moule se dissout. Et on n'a plus qu'à remettre l'organe nouveau dans le corps sans aucun rejet puisqu'il a été refait avec la peau du receveur. Mais l'on ne fait cela que pour des gens très riches et qui ont le temps pour changer un organe, car il faut du temps pour qu'il se refasse. Autrement, l'on prend de l'ADN pour mettre un nouveau organe. L'organe est pris d'une autre personne. Avec l'ADN, il n'y aura pas de rejet. C'est pour cela qu'on a encore besoin d'organes humains et d'ADN. Et puis, avec l'ADN, on a beaucoup d'autres choses. On fait beaucoup d'autres choses, comme pour la mémoire ordinateur. Les bactéries sont aussi chassées dans le monde pour leur faire faire des tas de choses. Métal, PVC, médicaments, pétrole, anti-radioactivité, etc., etc. Là, pour trouver les bonnes bactéries, des hommes font le tour du monde pour en chercher. Dès qu'on a trouvé une bactérie, on voit ce qu'elle peut faire. Dès qu'il y a une nouvelle espèce capable de faire quelque chose, on en fait des élevages en laboratoire, puis on les met dans les récipients et faisons en sorte à ce qu'elle puisse produire ce que l'on veut. Et oui, fini la bactérie qui passait son temps à rêvasser, à se bronzer au soleil, au boulot, comme tout le monde. Elles sont restées des milliers d'années à ne rien faire. On va leur faire rattraper tout ça. Heureusement qu'elles n'ont pas de syndicat, car les 35 corps seront largement dépassés. C'est presque du 24 heures sur 24, pas payé, sans congé et allocation familiale. Et quant à la retraite, elle se passera dans un four. La France est devenue le premier pays mondial de toutes ces choses. Les autres pays nous regardent avec curiosité et se demandent jusqu'où nous allons aller. L'histoire des chimères, oiseaux, les a beaucoup fait rire. Et ils préfèrent que ce soit nous qui fassions ces expériences plutôt osées que chez eux. Et eux voient ce qu'il ne faut pas faire. Comme cela, ça évite les catastrophes. Autant que ce soit chez nous. Donc nous sommes devenus le plus grand parc d'attractions et d'essais du monde. Les caméras du monde entier sont braquées sur nous, les journalistes aussi. Et tout Hollywood, pour les scénarios de leurs films, un producteur américain a demandé à Gallien des chimères oiseaux pour son prochain film. Il le dit à Danfort, qui lui dit « Vous voyez, que nos expériences servent. Nous allons vendre nos chimères oiseaux pour faire du cinéma. Et que peut-être qu'un de ces hommes oiseaux deviendra une star, comme Leonardo DiCaprio. » Gallien lui dit, « Peut-être, mais avant, il va falloir les rattraper. » Danfort lui dit, « Même si nous ne les rattrapons pas, nous en ferons d'autres. » Gallien lui dit, « Surtout pas. J'ai juré au président d'arrêter ces choses. » Danfort lui dit, mais lorsqu'il saura que c'est pour les vendre aux Américains, pour qu'ils les mettent dans leurs films, il ne dira certainement pas non. Ça fera une publicité du tonnerre. Et puis, des dollars, ça ne se refuse pas. Et ça renflouera le commerce extérieur. Gallien lui dit, la France deviendra plus riche et les pauvres de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres. Si ça sert qu'à enrichir ceux qui sont déjà riches, est-ce que ça vaut la peine? Oui. Et puis, les pauvres, s'ils sont pauvres, c'est qu'ils ne sont pas assez intelligents pour être des riches. C'est la sélection naturelle, comme pour les animaux. Les faibles, les blessés, les vieux sont laissés sur le chemin, tandis que les autres continuent à courir. Un jour, Galien vient au salon de thé avec Madame de Fleury. Elle lui dit
« C'est dur qu'on en fait des merveilles, que l'on peut faire revivre une personne en lui remettant en marche son cerveau. On connaît bien la façon dont les maladies sont propagées et le système humanitaire. Avec l'ADN, on peut introduire des produits pour immuniser le corps contre beaucoup de maladies. On peut changer des organes, les recréer. Et malgré toutes ces choses merveilleuses, on n'a pas pu me laisser en vie mon pauvre fils. »
Galien lui dit « Je comprends votre peine, mais l'être humain et tout ce qui est vivant est mortel. Quoi qu'on fasse, l'on meurt. C'est inscrit dans notre mémoire. Le vieillissement et la dégradation du corps, on n'y peut rien. Chaque vie a une vie maximale. Et malgré tout, ce que l'on peut faire, l'on mourra à cette date. » Elle lui dit
« Oui, mais à 120 ans, pas à 20 ans. »
Galien lui dit « Votre fils n'est pas mort d'une maladie, mais d'un accident. On pourrait guérir toutes les maladies, mais les accidents resteront toujours là. Et ça, à la minute où l'on vit, l'on risque quelque chose. À chaque instant, c'est un miracle. » Mais Galien du remords, il aimerait donner son fils à cette mère. Ce n'est pas juste que ce soit lui qui ait ce fils adoré, comme elle serait heureuse de le revoir, et comme lui serait heureux de l'avoir heureuse grâce à lui. Mais il lui en voudrait peut-être, et lui demanderait pourquoi il ne lui a pas rendu. Que seulement maintenant, il en voudrait qu'il lui ait caché la vie de son fils et que lui dire pour se disculper. Pourtant, il faudra bien un jour que ça se fasse. Et plus le temps passe, plus ce sera difficile à faire. Galien va voir Guillaume toutes les semaines au château.